Mao de Bourgogne.
Vers le milieu de la même nuit, deux cavaliers qui avaient fait partie de l'escorte d'Isabelle s'éloignèrent du château de Maubuisson. C'était Robert d'Artois et son serviteur Lormet, à la fois valet, confident, compagnon d'armes et de route, et fidèle exécuteur de toute besogne. Transfuge pour quelque pendable raison de la maison des comtes de Bourgogne, Lormet le Dolois, depuis que Robert se l'était attaché, n'avait pratiquement pas quitté ce dernier d'une minute ni d'une semelle. C'était merveille que de voir ce petit homme rond, râblé et déjà grisonnant, s'inquiéter en toute occasion de son jeune géant de maître, et le suivre pas à pas pour le seconder en toute entreprise, comme il l'avait fait récemment dans le guet-apens tendu aux frères Daunet. Le jour se levait lorsque les deux cavaliers arrivèrent aux portes de Paris. Ils mirent au pas leurs chevaux fumants, et Lormet bâilla une bonne dizaine de fois. À 50 ans passés, il résistait mieux qu'un jeune écuyer aux longues courses à cheval, mais le manque de sommeil l'accablait. Sur la place de Grève se faisait le rassemblement habituel des manœuvres en quête de travail. Contremaître des chantiers du roi et patron marinier circulaient entre les groupes pour embaucher aides, débardeurs et commissionnaires. Robert d'Artois traversa la place et s'engagea dans la rue Mauconseil, où habitait sa tante, Mao d'Artois. « Vois-tu, Lormet, dit le géant, je veux que cette chienne trop grasse entende son malheur de ma propre bouche. Ah, voici un grand moment de plaisir en ma vie qui s'approche. Je veux voir la mauvaise gueule de ma tante lorsque je vais lui conter ce qui se passe à Maubuisson. Et je veux qu'elle vienne à Pontoise, et je veux qu'elle aide à sa ruine, en allant braire devant le roi, et je veux qu'elle en crève de dépit. » Lormet bâilla un bon coup. « Elle en crèvera, monseigneur, elle en crèvera, soyez-en sûr. Vous faites bien tout ce qu'il faut pour cela, » dit-il. Ils atteignaient l'imposant hôtel des comtes d'Artois. « N'est-ce point, vilainie, qu'elle soit à se goberger en ce gros logis que mon grand-père a fait bâtir ?» reprit Robert. « C'est moi qui devrais y vivre !»« Vous y vivrez, monseigneur, vous y vivrez. Et je t'en ferai concierge, avec 100 livres par an !»« Merci, monseigneur, » répondit Lormet comme s'il avait déjà la haute fonction et l'argent en poche. D'Artois sauta au bas de son percheron, lança la bride à Lormet et saisit le heurtoir dont il frappa quelques coups à fendre la porte. Le battant cloué s'ouvrit, livrant passage à un gardien de belle taille, fort éveillé, et qui tenait à la main une masse grosse comme le bras. « Qui va là ?» demanda le gardien indigné d'un pareil vacarme. Mais Robert d'Artois le poussa de côté et pénétra dans l'hôtel. Une dizaine de valets et de servantes s'affairaient au nettoyage matinal des cours, des couloirs et des escaliers. Robert, bousculant tout le monde, gagna l'étage des appartements. « Hola !» un valet accourut, tout effaré, un seau à la main. « Ma tante, Picard ! Il me faut voir ma tante dans l'instant !» Picard, la tête plate et le cheveu rare, posa son seau et répondit « Elle mange, monseigneur !»« Eh bien, je n'en suis point dérangé. Préviens-la de ma venue et fais vite !» S'étant rapidement composé une mine de douleur et d'émotion, Robert d'Artois suivit le valet jusqu'à la chambre. Mao, comtesse d'Artois, père du royaume, ex-régente de Franche-Comté, était une puissante femme entre 40 et 45 ans, à la carcasse haute et solide, aux flancs massifs. Son visage, au masque engraissé, donnait une impression de force et de volonté. Elle avait le front large et bombé, le cheveu encore bien châtain, la lèvre un peu trop duvetée, la bouche rouge. Tout était grand chez cette femme. Les traits, les membres, l'appétit, les colères, l'avidité à posséder, les ambitions, le goût du pouvoir. Avec l'énergie d'un homme de guerre et la ténacité d'un légiste, elle menait sa cour d'Arras comme elle avait mené sa cour de Dol, surveillant l'administration de ses territoires, exigeant l'obéissance de ses vassaux, ménageant la force d'autrui, mais frappant sans pitié l'ennemi découvert. 12 ans de lutte avec son neveu lui avaient appris à le bien connaître. Chaque fois qu'une difficulté survenait, chaque fois que les seigneurs d'Artois regimbaient, chaque fois qu'une ville protestait contre l'impôt, Mao ne tardait pas à déceler quelque action de Robert en sous-main. « C'est un loup sauvage, un grand loup cruel et faux, » disait-elle en parlant de lui. « Mais je suis plus solide de tête, et il finira par se briser lui-même à force d'en trop faire. » Ils se parlaient à peine depuis de longs mois et ne se voyaient que par obligation à la cour. Ce matin-là, assise devant une petite table dressée au pied de son lit, la comtesse Mao mâchait, tranche après tranche, un pâté de lièvre qui constituait le début de son menu de réveil. De même que Robert s'appliquait à feindre l'émoi et le chagrin, Elle s'appliqua, quand elle le vit entrer, à feindre le naturel et l'indifférence.